Le MEDEF est-il devenu un nid de rebelles? À l'ouverture d'une université d'été relookée, le patron des patrons a fait son entrée sur une chanson du groupe britannique Sex Pistols.
Bonjour, bonjour à tous.
Un clin d'œil au programme de la rencontre, directement inspiré du mouvement punk. Nos futurs, climat, inégalité, conflit, quel capitalisme demain?
Ce monde de demain, c'est ensemble que nous allons le construire. Je vous souhaite, je nous souhaite, deux très belles journées de réflexion, de débat, d'échange, d'action. Vive les entrepreneurs et vive la France.
Quelques mois après la crise des Gilets jaunes, les entrepreneurs jurent que le profit n'est pas leur seule préoccupation. Reçus à l'Élysée la semaine dernière, des grands patrons ont annoncé des mesures pour réduire les inégalités et préserver la planète. Dans le secteur du luxe et du prêt-à-porter notamment, 30 entreprises se sont engagées à moins polluer. Un fashion pact initié par le milliardaire François-Henri Pinault.
Il y a un véritable engagement de ces entreprises. Elles n'étaient pas obligées de le faire du tout. Il n'y avait pas de publicité négative pour celles qui ne souhaitaient pas le faire.
Le phénomène touche jusqu'à Wall Street, la Mecque du capitalisme. Des grands patrons viennent de signer un manifeste qui fait la une des médias économiques américains.
La déclaration a été signée par 200 PDG, dont le patron de la banque JP Morgan. Il annonce que sa société devrait se concentrer sur tous les acteurs. Pas seulement les actionnaires, mais aussi les employés, les clients. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est très politiquement correct.
Affichage politiquement correct ou engagement concret, peut-on faire confiance au patron? Entre des actionnaires qui aspirent à plus de dividendes, des clients qui cherchent des prix bas et des concurrents pas toujours aussi éthiques qu'eux, les chefs d'entreprise peuvent-ils tenir leurs engagements?
Alors voilà, pour en parler, notre
Chris Witt, qui vous pose la question suivante. Avec des lobbyistes présents partout où se prennent les décisions politiques, les grands patrons n'ont-ils pas toujours influé la société? Thomas Porcher, le MEDEF, d'autres groupes n'ont-ils pas effectivement déjà une influence sur le pouvoir ou sur le pays?
Mais oui,
d'une manière ou d'une autre.
Complètement, même y compris à la COP21, enfin aux réunions sur le climat, vous avez des grandes entreprises, oui, et des lobbies derrière qui font en sorte que y ait des termes qui ne figurent pas à la fin dans les textes.
Par exemple, quel terme?
Je sais pas, moi, par exemple, énergie fossile, il fallait pas vexer certains pays, mais aussi certaines entreprises, le transport aérien, le transport maritime, il fallait pas que ça figure dans l'accord sur le climat.
Et ils ont réussi à le faire, pardon, oui, à imposer,
sûr,
la, ouais, disparition.
Bah, vous savez, le texte de l'accord sur le climat à Paris, qui a été célébré, mm-hmm, partout, il faisait une quarantaine de pages. Parce, ouais, qu'on avait tellement retiré de choses qu'à la fin, il restait pas grand chose. Alors, fallait lutter contre le réchauffement climatique, on est tous d'accord, mm-hmm, mais il fallait pas désigner coupable. Mm-hmm. Voilà. Mais quand vous regardez un traité de libre-échange, et là, c'est du commerce, hein, entre, par exemple, la Corée du Sud et l'Europe, et c'est 1800 pages. Parce que là, il faut mettre tous les éléments qui sont importants. Et qui, voilà. Donc, le commerce prédomine sur le climat. Voilà.
Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouvel éthos des entreprises?
Eh bien, il faut y croire. Il s'incarne dans un chiffre du jour.
Le chiffre du jour.
1000 milliards de dollars, puisque c'est ce que pèsent en chiffre d'affaires les 34 multinationales qui se sont engagées contre les inégalités. Donc, dans une déclaration commune, elles promettent de prendre des mesures concrètes, je cite, pour veiller à ce que les fruits de la croissance économique soient plus largement partagé. Olivier Babeau, pour l'instant, c'est de la déclaration d'intention, mais qu'est-ce que ça veut dire des mesures concrètes? Il y aurait quoi comme mesures concrètes pour réduire les inégalités?
Alors, les sujets sont très très vastes, parce qu'on voit qu'on parle, et en fait depuis longtemps, des inégalités sociales, c'est-à-dire de la façon dont les employés sont traités, évidemment des inégalités au sein des entreprises, mais aussi de la façon dont on va traiter et s'intéresser aux sous-traitants. Et on se souvient des scandales avec Nike, par exemple, et des sweatshops en Asie, évidemment. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits depuis cette époque-là et une prise de conscience réelle. Il y a des rapports annuels sur cet effet environnemental, cet effet social des entreprises. Je crois que ça n'est pas seulement de l'affichage, ça correspond aussi à un besoin réel, à un besoin des clients, à un besoin des nouvelles générations, alors peut-être quand même des anciennes aussi, j'espère, mais, oui, mais en tout cas une prise de conscience générale de la part des gens.
Mais comment, on a vu quand même que quand il n'y a pas de contraintes, quand c'est du déclaratif, par exemple, il y a eu les codes AFEP, MEDEF, de bonne conduite des entreprises, eh ben souvent ça ne se traduit quand même pas dans les faits.
Le code AFEP, MEDEF, il n'est pas, contraignant, il n'est pas obligatoire.
Pas contraignant, bah,
mais il y a des progrès extraordinaires qui ont été faits sur le CNP, sur la déclaration, par exemple,
CNP,
c'est-à-dire sur la transparence, oui, sur, j'allais traduire, traduire.
Sur les salaires.
Sur la transparence sur les salaires. Sur la patrons, façon dont on rémunère les patrons, qui aujourd'hui sont transparents et puis votés.
Ce n'est pas contraignant.
Ça ne les empêche pas de se rémunérer comme ils le souhaitent.
Oui, mais il y a aussi des conseils d'administration, des assemblées générales, qui ont voté contre. Justement, il y a eu des cas où ça a été, effectivement, on s'y est opposé, où il y a eu des mouvements des actionnaires.
Les patrons ont pu aller contre. Enfin, Carlos Ghosn est allé contre les actionnaires, par exemple.
La problématique de l'égalité homme-femme qui dure quand même depuis un siècle avec cette journée là du 8 mars qui a plus de 100 ans, on voit que les choses ont avancé, mais ça a quand même mis énormément de temps et il y a encore beaucoup.
Il n'est pas encore à la parité totale dans les conseils d'administration.
Et l'égalité salariale.
Pourtant, il a fallu fait passer par la réglementation pour que les choses évoluent et il faut quand même voir la différence, faire la distinction entre les déclarations de bonnes intentions et ce qui est fait réellement en pratique. Et je pense que on a bien vu sur l'égalité homme-femme et la parité, c'est un problème qui ne peut être résolu que par la réglementation. Et je pense que pour les autres problématiques, qu'elles soient environnementales ou sociales, il va falloir effectivement rentrer dans cette même problématique et avoir ces mêmes outils pour imposer aux entreprises
un cadre.
Oui, parce que l'entreprise a un objectif, c'est ce que je dis, c'est répondre aux besoins du client. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir faire du chiffre d'affaires. C'est parce que le client a de nouvelles exigences, on le voit avec les jeunes, on le voit, il suffit de regarder les résultats des élections, par exemple, aux européennes, avec le succès des écologistes. Et c'est parce que, ils tiennent compte des nouveaux comportements que l'entreprise doit s'adapter. Oui. Et c'est pas l'inverse. On n'a pas vu l'entreprise s'adapter ou avoir envie ou influer une tendance.
Tout à fait. Mais après, il y a le marketing. On repeint la façade en vert et en fait, on fait rien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit qu'elles voulaient un prix du carbone. Alors le prix du carbone, c'est déjà pas quelque chose de révolutionnaire. C'est un mécanisme de marché qui ne vise pas à changer vraiment les modes de production. Ça vise à les corriger. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour enclencher une transition énergétique ambitieuse. Je veux dire, le GIEC dit toujours qu'il faut vraiment un changement radical des modes de production et de consommation. Ce n'est pas avec un prix du carbone qu'on le fera. Mais malgré tout, toutes les entreprises disent qu'elles veulent un prix du carbone. Mais après, vous avez le MEDEF européen, Business Europe, qui a tout fait pour faire en sorte que le marché du carbone ne fonctionne pas bien, qu'on donne des droits à polluer.
Sur le diesel.
Énorme. Et à la fin, on avait un prix du carbone qui était dérisoire et qui n'amenait pas à un changement, mais qui, justement, amenait à conserver le business as usual. Donc là, on a vraiment un double discours entre l'affichage et ce que font derrière les représentants du patronat.
Oui, Elisabeth, je vous propose
quelqu'un.
Exactement, d'écouter le PDG de Danone, qui est en pointe quand même sur ces questions depuis assez longtemps, Emmanuel Faber. Regardez ce qu'il est écouté, ce qu'il a déclaré il n'y a pas longtemps.
Aujourd'hui, la classe moyenne, elle s'effrite un peu partout. On le voit, on voit la montée des inégalités et on considère qu'il n'y a pas de système. Les choses ne changeront que si une économie plus inclusive se développe. Si cette économie plus inclusive se développe, c'est parce que des entreprises plus inclusives se développent.
C'est intéressant ce qu'ils disent, il n'y a pas de système, ça ne fait plus système. Est-ce que c'est quand même pas désormais la logique du libéralisme de dire finalement il est aussi dans l'intérêt de tout le monde que tout le monde y trouve son compte? Parce que est-ce que certains patrons ne commencent pas à avoir peur de la montée des inégalités et du fait que ça pourrait se retourner contre eux?
Oui, je suis de ceux qui pensent que le libéralisme, c'est d'abord un humanisme. On ne peut pas demander à l'entreprise d'être plus vertueuse que la société. On parlait des inégalités, par exemple, de rémunération. Évidemment, on vient de très loin, et on vient de très loin même au niveau social, souvenons-nous, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc effectivement, les entreprises, elles sont avec des hommes et des femmes qui ont les mentalités de leur temps et qui évoluent aussi, heureusement, mais on ne peut pas leur demander
d'être... Il y a un devoir d'exemplarité peut-être, malgré tout.
Il faudrait d'abord, du point de vue de leur importance, mais il faut laisser à César ce qui est à César et aux entreprises, ce qui est aux entreprises. C'est-à-dire, il ne faut pas que le politique néglige son rôle, qui est réel, de fixer des contraintes, quand il le faut, de fixer des règles claires qui soient les mêmes pour tous les marchés, parce que le problème souvent dans les règles environnementales, c'est que on est très très fort pour se mettre des boulets aux pieds qui peuvent être effectivement extrêmement vertueux, et on sait très bien qu'il faut développer l'éco-conception, qu'il faut aller contre l'obsolescence programmée, mais si derrière vous importez des produits qui eux n'ont pas ces contraintes, et qui ont encore moins de contraintes sociales, évidemment vous êtes
donc, pas dire que le politique doit être cohérent
et bien sûr, que c'est à lui de fixer des règles du marché qui soient égales pour tout le monde.
Parce que l'État n'a pas la même durée de vie qu'une entreprise. Une entreprise, on voit, en fait, en moyenne, elle a une durée de vie de 60 ans, c'est moins que notre espérance de vie. Donc on ne peut pas demander aux entreprises d'avoir une vision sur le très, très long terme. C'est à l'État qui, lui, peut lever l'impôt de manière infinie, de donner des orientations.
Tout à fait. Non, mais tout à fait. Et d'ailleurs, les là, on est d'accord.
Donc, oui, c'est pour ça que là, je suis éberluée.
Les entreprises, elles ne sont pas plus vertueuses que les États, en fait. Voilà, vous avez notre président de la République qui, 3 mois après son élection, se déplace à Toulouse et dit « Oui, on va relancer la construction de bâtiments en baissant les normes environnementales et sociales ». C'est lui qui l'a dit, là. Voilà. Après, les entreprises, bah, là, elles s'engouffrent là-dedans. Voilà. Mais peut-être que les entreprises, si elles étaient plus vertueuses que les États, elles diraient « Non, laissez ces normes environnementales et sociales, on est content. Lui, il a dit « Il faut du pragmatisme ». Donc voilà, en fait, les entreprises, elles ne sont pas pires que les États qui, eux, finalement, ne respectent pas toutes ces normes. Enfin, elles ne sont pas au niveau, en tous les cas, pour relever le défi climatique.
Alors par contre, les ONG ont un rôle énorme à jouer, Nadia.
Bien sûr, et effectivement, on voit que beaucoup de patrons craignent les ONG et leur communiquer comme la peste. À l'inverse, il y en a d'autres qui sont peut-être plus malins, qui ont décidé de se placer de leur plein gré sous le contrôle de ces ONG et même de travailler avec elles. C'est le cas par exemple du groupe d'assurance AXA qui avance main dans la main avec le WWF. Ils ont rédigé il y a quelques mois ensemble un rapport baptisé, encore de l'anglais, Into the Wild, intégrer la nature dans les stratégies d'investissement. Certains voient dans ces partenariats ONG-entreprises un pragmatisme constructif, une stratégie win-win, comme on dit au FEDEP. Après j'arrête, mais c'est aussi un comportement qui
taquine.
Des critiques et des interrogations, notamment sur le risque de perdre son indépendance de la part des ONG. La fondation Nicolas Hulot, par exemple, est régulièrement accusée d'être conciliante avec le nucléaire alors qu'elle compte parmi ses donateurs partenaires EDF ou Veolia. Elle se défend de tout conflit d'intérêts, mais le doute persiste. Le WWF que je viens de citer multiplie les relations de partenariat et de mécénat, est aussi pointé du doigt, notamment quand il collabore avec Michelin sur le caoutchouc responsable. Olivier Babot, c'est si vertueux que ça ce système ou c'est de la paranoïa et voir le mal partout que de se dire bon, c'est peut-être pas totalement propre, pour dire les choses simplement,
c'est étanche. Ouais. Déjà, si les entreprises n'avaient pas ce discours, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait, mais vous êtes folle, vous rendez compte, vous ne vous intéressez pas. Bon, déjà, ce n'est pas possible. Après, le procès d'intention, alors, on peut tous être kantiens dans notre morale et dire, il faut ne faire un acte moral qu'au nom de la morale. Enfin, on est tous différents dans notre vie, on sait très très bien. Hein. Kant a les mains propres, mais il n'a pas de main, disait
Peggy. Vous comprenez que c'est
ben, exactement, ben, les entreprises, bah oui, elles ont des intérêts. Et heureusement qu'il y a des pressions. Il y a des pressions des publics, il y a des pressions des ONG.
Mais ce mélange des genres est-il si naturel entre ONG et entre entreprises? Est-ce qu'on a le même objectif quand on est AXA et quand on est WWF? Est-ce qu'on est parfaitement impartial quand on est une ONG et qu'on publie un rapport et qu'on a travaillé avec une entreprise?
Moi, je fais confiance aux WWF et aux ONG pour défendre leur indépendance, pour dire non quand elles ne sont pas d'accord. Et à un moment donné, on a des convergences sur certains points. Et si on peut développer des beaux projets, des belles actions dans certains domaines, je crois qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. Et essayer d'encourager ça, parce que l'entreprise, c'est sale. Hein, effectivement.
Alors là, je suis encore d'accord là-dessus. Je pense qu'il faut discuter. Il faut discuter avec les entreprises.
Il est perdu pour la cause.
Il faut aussi dire la réalité des choses. Il faut dire la réalité des choses. C'est-à-dire que là, on peut discuter sur des points comme ça, mais dire la réalité des choses de notre CAC 40. Notre CAC 40, c'est 15% de filiales dans des paradis fiscaux. Bah, ça, il faut le dénoncer. Qu'est-ce que font nos CAC 40 qu'est-ce que fait Total dans des paradis fiscaux? Parfois, il n'y a pas de pétrole. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, faut lui demander. Non, mais ça, faut dénoncer. Est-ce qu'elles réduisent leurs émissions de CO2? Non. Est-ce qu'elles respectent des engagements qu'elles ont dit parfois? Bah, faut suivre ces engagements. Quand on dit qu'on va utiliser, par exemple, comme IKEA, 100% d'énergie renouvelable en 2020, bah, il faut le vérifier. Ils l'ont dit en 2014.
C'est le rôle des ONG.
Voilà. C'est le rôle des ONG. Et puis après, l'État a son rôle de réglementer et d'être ferme. Les inégalités augmentent. Elles augmentent plus dans les pays qui ont baissé la fiscalité et les transferts. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc les inégalités vont augmenter, alors qu'elles avaient moins augmenté que dans le reste des autres pays ces 30 dernières années. Donc voilà, ça c'est à l'État de prendre les choses en main.
Et justement, vous rappelez depuis le début de cette émission tout ce que le politique ne doit pas se délester de ses responsabilités. Mais est-ce qu'on n'est pas là en train d'assister à un changement de paradigme en France, c'est-à-dire que comme aux États-Unis, on décide que c'est finalement les entreprises vont faire du mécénat, c'est-à-dire que on ne régule plus par l'État, mais les entreprises ont leurs grandes œuvres. Elles ne payent peut-être moins leurs impôts, mais elles font leurs œuvres,
le mécénat,
Notre-Dame, donne pour l'Amazonie ou des fondations.
Bill Gates, avant de créer sa fondation, a quand même mis un pactole de côté de 100 milliards de dollars. Donc, faut pas demander aux entreprises d'abord de faire de la philanthropie. Une entreprise, elle est là pour assurer des salaires. Oui, on voit que les choses évoluent, mais là encore, elles évoluent parce que la société évolue et c'est pas uniquement un effet de mode d'aller dans le vert, de faire de l'environnement une question cruciale. On a bien vu, on voit bien ce qui se passe cet été en Amazonie. Bon, tout le monde s'empare du sujet, donc les entreprises, elles n'ont strictement pas le choix. Elles sont pragmatiques, elles savent qu'elles doivent s'adapter.
Et elles sont observées sur les réseaux sociaux par les consommateurs.